FFA limite à 1 km, ben pendant son 2 heures de foot, il va faire 6, 7, 8 km. Mais ces chiffres-là ne sont pas basés sur la science. À partir de quand on peut commencer à courir? En fait, c'est des choses qui ont été fréquemment mises de l'avant. Si tu cours trop longtemps, tu cours trop, ben tu vas moins grandir vite. Il y a aucune limite au désir de l'enfant de faire de l'activité physique. Aucune.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est deux check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendue enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life. Choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description.
Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de 1000%, le podcast où on parle sport, santé et nutrition. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va, je pense, vous passionner et vous intéresser. Beaucoup de mythes, beaucoup de choses qui sont peut-être vérifiées ou pas. Donc, à quel âge peut-on courir ? On a la chance de recevoir Blaise Dubois, qui est, on va le laisser se présenter, mais si vous nous avez déjà écouté, on l'a déjà reçu à plusieurs reprises dans le podcast. Donc, on va justement parler de ce sujet-là, voir la vérité. Est-ce qu'il y a des études scientifiques sur le sujet? Est-ce qu'il y aurait un âge auquel on pourrait courir? Est-ce qu'il y aurait aussi une limite en termes de kilomètres selon les âges? Comment aussi mettre nos enfants au sport? Ça va être un épisode passionnant pour les papas et aussi pour les mamans et pour tout le monde qui a des enfants dans son entourage, car il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur ce sujet et ça nous tenait à cœur de l'évoquer avec un expert et toujours accompagné de Pierrot de la team 1000%. Comment ça va, Pierre?
Toujours ravi de recevoir Blaise, de recevoir Blaise pour parler de course à pied et de faire le point sur faire les mises à jour là-dessus. Hein.
Ben ouais, Blaise, on va laisser te présenter peut-être pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, mais j'en doute.
Merci les gars encore de me recevoir. Alors moi, j'ai un petit accent canadien parce que j'ai grandi au Québec, au lac Saint-Jean. Originaire de la Suisse, mais immigré à l'âge de 10 ans au lac Saint-Jean. Je suis devenu physiothérapeute. J'ai été passionné de course à pied à partir de l'âge de 14 ans. Et cette passion m'a amené à bien évidemment être blessé, à devenir physiothérapeute, à pratiquer la physiothérapie avec des coureurs blessés, à former des praticiens à la prévention des blessures, à démarrer la Clinique du coureur, qui est un organisme de formation continue qui fait le tour du monde, qui enseigne aujourd'hui dans 18 pays les meilleures pratiques sur la prévention et le traitement des blessures chez le coureur. Et puis, ben, on a écrit le livre « La santé par la course à pied » avec les éditions Mons. Et en gros, c'est ça. Je cours tous les jours, j'ai 4 enfants, je suis grand-père d'une petite fille. Et donc, le sujet de la course à pied chez les enfants m'intéresse.
Ben parfait, on va essayer nous aussi de te poser les bonnes questions et d'être intéressant. Pour faire un petit retour sur le contexte de ce podcast, moi j'avais fait une course, donc j'avais invité ma maman et ma tante à faire leur première course, leur premier 5 km. Donc bon, bref, je les ai mis un petit peu au sport. Et j'avais mon filleul que je voulais donc faire participer. Et je me suis rendu compte, donc il a 7 ans, il va bientôt faire 8 ans. Je me suis rendu compte que c'était pas possible de faire des courses de 5 km pour des enfants. Donc je me suis renseigné justement sur le site de la Fédération Française d'Athlétisme. Donc pour savoir déjà au niveau légal, au niveau des courses, juste je fais un petit point, Blaise. Donc, quand on a 9 ans, on peut faire moins d'un kilomètre au niveau des courses. De 10 à 11 ans, c'est 2 kilomètres. 11, 12 ans, 3. 14, 15, 5 kilomètres. 16, 17 ans, 15 kilomètres. À partir de 18, 19 ans, on peut faire un 25 kilomètres. Donc, toujours pas de marathon à 18 ans. Déjà, Blaise, première question, ça sort d'où ces chiffres? Est-ce que moi, j'ai essayé de contacter la Fédération française d'athlétisme. J'ai pas eu de retour, malheureusement. J'avoue, je m'y suis pris aussi un petit peu tard. Et moi, ce que j'ai eu comme retour de professionnels de l'éducation, ça serait que justement, ils essayent plutôt de développer les capacités motrices de l'enfant et moins une recherche d'endurance, comme on pourrait la qualifier. Toi, c'est quoi ton avis sur ce sujet?
Alors, moi, j'allais te poser la question, mais ça vient d'où ces chiffres? En fait, pas juste de la fédération, mais à la base, sur quel fondement scientifique on élabore des chiffres de ce type-là. Alors, dans la mesure où on veut développer des qualités et autres, dans la mesure où on veut développer non pas juste de l'endurance, mais du multisport, du multimouvement, du développement moteur varié, c'est génial, c'est parfait. Dans la mesure où on met des barèmes de compétition pour s'assurer que les enfants ne sont pas poussés par les parents pour faire des courses qui font pas de sens, ça peut être correct aussi. Mais ces chiffres-là ne sont pas basés sur la science. Il n'y a absolument rien dans la science qui justifie ces chiffres-là. Malheureusement, la FFA prend ces chiffres de la World Athletic parce qu'au Québec, on a exactement les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a comme un standard qui a été véhiculé par l'Association internationale d'athlétisme, en fin de compte, qui met de l'avant, finalement, des chiffres qui ne font aucun sens. Parce que ton enfant a le droit de jouer au foot pendant 2 heures. Et donc, pendant son 2 heures à l'âge de 9 ans, où là, par exemple, la FFA limite à 1 kilomètre, pendant son 2 heures de foot, il va faire 6, 7, 8 kilomètres. Et ce n'est pas un problème, parce qu'il y a un ballon, puis parce qu'il joue au foot. Mais si jamais il veut courir, là, il n'a pas le droit. Et c'est ça qui ne fait pas de sens. En fait, aujourd'hui, on a un gros problème de sédentarité, de manque d'activité physique. Les enfants n'ont pas besoin d'être restreints, ils ont besoin d'être stimulés. Ils ont besoin d'être poussé au cul pour dire « il faut que tu bouges, il faut que tu sortes de ton ordinateur, de ta tablette, de ton iPhone pour aller dehors, pour aller bouger, pour aller jouer. » Et la course, en fin de compte, est l'activité la plus simple et la plus facile. Et dans la mesure où ça vient de l'enfant lui-même, c'est-à-dire qu'il a ce désir, lui, de se dépasser, et je fais référence à moi, quand j'étais tout jeune, j'avais envie d'aller courir, puis de bouger, puis de faire des activités. Et j'avais même un plaisir à courir pendant un certain temps, de courir pendant 30 minutes pour en étant essoufflé et vivre ce moment-là, il ne faut surtout pas les freiner.
Mais ce que je ne comprends pas, Blaise, c'est quel intérêt aurait donc cet organisme-là international de mettre des barèmes si bas pour les enfants. C'est quoi la logique derrière? Est-ce que toi, tu as creusé un petit peu ce sujet-là? Parce que le but, c'est quand même aussi d'essayer d'avoir d'une fédération, j'imagine, c'est d'inciter les adhérents, de mettre les jeunes dans ces sports-là. Mmh. Et là, j'ai l'impression qu'au contraire, ça va un peu à l'encontre de cet objectif d'avoir de plus en plus d'adhérents dans la fédé.
Alors, moi, qu'un jeune, par exemple, de 9 ans ne se spécialise pas dans les épreuves d'endurance et que plutôt que de faire, 30 km par semaine de course, il fait du saut en longueur, du saut en hauteur, du lancer du poids et puis nomme-en des haies, et etc. C'est génial. Sur le développement moteur, sur les qualités motrices, sur la vitesse, sur l'ensemble de ces facteurs-là, c'est génial. L'enfant qui, lui, n'a pas d'intérêt pour ces sports-là et qui a envie de courir, il ne faut vraiment pas le restreindre à faire de la course à pied. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces normes-là, habituellement, on les multiplie par 2 sur les recommandations par semaine. Donc, je prends l'exemple de ton enfant de 10 ans qui a le droit de faire 2 km en compétition. Cet enfant-là, en fin de compte, pourra faire un 4 kg dans sa semaine, ce qui est largement insuffisant. Ce qu'on sait, par contre, c'est que la spécialisation hâtive dans les épreuves de toutes sortes, dans les épreuves sportives, c'est-à-dire qu'un jeune qui se spécialise très jeune sur la course à pied, sur le foot, sur etc., a moins de probabilité de conserver son intérêt pour ce sport-là à travers le temps. Donc, si moi, mon jeune qui a 7 ans, 8 ans, je vais m'entraîner tous les jours avec, c'est moi qui le motive plus que c'est lui qui se motive, il y a beaucoup de chances que quand il va arriver à l'adolescence, il va arrêter la course à pied. Par contre, d'être actif, de faire du sport de façon générale, est un très bon prédicteur que la personne va être active à l'âge adulte. Donc, il faut qu'on motive nos jeunes à faire du sport et à bouger sans trop les spécialiser. Mais après ça, il y a des intérêts personnels. Moi, j'ai ma fille, son ami, qui, en fin de compte, ont un intérêt à faire de la course d'endurance. Ils ont vu des représentants courir à la télé, ils ont vu Kylian Jornet monter des montagnes, et puis ils ont envie de se dépasser à faire des bonnes sorties, aller en montagne, etc. Et ça fait en sorte qu'avec ces normes-là, on restreindrait les enfants à aller faire ces activités-là, ce qui fait aucun sens.
Quand tu parles de course, on prend les normes qui ont été évoquées, tu les multiplies par 2. C'est une course unique faite sur un jour unique ou c'est le volume de course sur la semaine? C'est pas le volume de course sur la semaine dont tu parlais.
C'est le volume de course sur la semaine. Dans les recommandations, en fin de compte, il faudrait voir si la FFA fait les mêmes recommandations, mais au Québec, la Fédération québécoise d'athlétisme, en fin de compte, a des distances. Alors, à 9 ans, je crois que c'est un peu plus que le 1 km que vous émettez là sur la FFA. Donc ça doit être les distances de compétition probablement.
C'est ça.
La seule chose, c'est que quand on parle de volume par semaine, on restreint aussi le volume de la compétition. Donc, au Québec, c'est multiplié par 2. Donc, je crois qu'à 9 ans, c'est 3 km. Donc, c'est maximum 6 par semaine. En fait, ça reste rien du tout. Les enfants devraient, dans les recommandations scientifiques pour les enfants, on devrait avoir minimum une heure par jour d'activité intense. Tu joues au foot, tu vas courir, tu joues au basket. Et puis, ben, on devrait avoir à peu près 3 heures d'activité physique par jour qui est je marche, je fais du vélo et je fais plein de choses. Et là, le problème de nos enfants aujourd'hui, c'est qu'ils ne bougent pas assez. Et on a des problèmes. En Amérique du Nord, hein, c'est 30% des enfants qui ont un surpoids pondéral. Là, on parle des futurs obèses de la future génération. On a un sérieux problème.
Même nous, en France, j'ai vu les chiffres, hein, les 18-24, on est à 9,2% en 2020, alors qu'il y a 20 ans, on était à 2% seulement. Donc, il y a vraiment une augmentation qui est importante, de la sédentarité. Il y a 17% justement des enfants de moins de 17 ans qui ont une inactivité totale. Hein. C'est des chiffres qui sont quand même impressionnants. On part du constat qu'en compétition, ben, ça va être compliqué. Peut-être la Fédé ne nous aide pas. Enfin, voilà. Après, ça, c'est le constat. Après, moi, je suis papa, par exemple. Comment je fais par rapport avec mes enfants qui me voient courir et ils se disent, ben, justement, papa, j'ai envie de courir avec toi. Mais en même temps, je vois qu'il y a ce protectionnisme d'un côté. Ça serait quoi le discours? Comment je fais, justement? Est-ce qu'il y a des âges limites? Qu'est-ce que ça dit, la science, par rapport à ça? Comment on fait pour encadrer son enfant, parce qu'on sait que la base, elle n'est pas là, on n'a pas non plus les compétences pour le faire. Sur quoi on s'appuie? Qu'est-ce que tu conseillerais justement aux parents?
Alors, je vais te faire ça extrêmement simple. Ça va Allez, être vas-y. Extrêmement simple.
On veut ça, de la simplicité.
On veut ça simple. Il n'y a aucune limite. En fait, il n'y a aucune limite au désir de l'enfant de faire de l'activité physique. Aucune. Et on ne prendra même pas des cas d'exception, ou etc. Ce qui est important, c'est que les enfants mangent à leur faim. Parce que quand on arrive surtout chez les filles, quand on arrive préadolescent, là, on peut avoir des problématiques de nutritionnel associées à l'activité physique. En dehors de cette particularité-là, les enfants peuvent bouger autant qu'ils veulent, il n'y a pas de limite. Et quand je dis il n'y a pas de limite, c'est qu'on pourra parler tout à l'heure des pathologies qui existent chez l'enfant, le Severe Disease, le Schlatter, etc., etc. Mais ce sont des pathologies de surcharge ponctuelle qu'il faut bien gérer. Mais en fait, plus on est actif, moins on a de chances de développer ces pathologies-là. Donc, dès le plus jeune âge, au moment où ton enfant arrive à marcher, parce que tu m'as posé la question en préalable, à partir de quand on peut commencer à courir? En fait, on commence à courir quand on peut marcher. Au moment où tu peux marcher, tu as le droit de courir et tu peux courir aussi longtemps que tu as envie de courir. Et si ça vient de l'enfant lui-même, il n'y a pas de limite. Aucune.
Il y a quand même une limite haute, tu vois. En termes de sport, d'entraînement spécifique, le corps a une capacité d'adaptation qui a une limite sur un volume d'entraînement sur la semaine.
Oui, certainement.
J'entends que, en fait, le problème, il n'est pas à cette limite haute dans la majorité des cas. On est bien d'accord que on va parler d'exceptions d'enfants qui sont en état de surentraînement, qui s'entraînent trop au tennis ou au foot, qui en font vraiment beaucoup trop. Mais là, on parle, je pense, d'exception. On ne parle pas des 95% des enfants où là, il faut plutôt les faire plus.
Effectivement. Puis là, il faut même préciser quelque chose. C'est que quand on parle de l'enfant qui est surchargé au niveau, par exemple, du tennis, c'est la surcharge mentale qui vient avec. Parce qu'au niveau physique, en fin de compte, c'est que le corps, il va te parler. En fait, c'est que le surentraînement chez les enfants est relativement rare, surtout si depuis le tout jeune âge, ils sont actifs et ils font plein d'activités. En fait, c'est que le corps s'adapte très, très bien. Au niveau des blessures, c'est la même chose. C'est que, bon, à un moment donné, ma fille qui fait 15 heures de gymnastique par semaine et qui en plus s'amuse sur la trampoline et qui en plus fait plein d'autres choses, se présente avec une douleur au talon. Elle a un severe disease, une maladie de sévère. Et ben, finalement, qu'est-ce que ça a pris? Ça a pris 3 jours de repos, ça a pris quelques jours de reprise douce et puis bingo, c'est réglé. En fait, c'est que si on les prend très tôt et qu'on écoute le corps de l'enfant qui tout d'un coup dans une surcharge va avoir des symptômes, c'est pas un problème. Ces pathologies-là ont plus de probabilité d'apparaître si l'enfant est de nature sédentaire en bas âge et tout d'un coup rentre en sport-études. Et c'est le différentiel qui est problématique. Donc, quand tu me parles de... Nous, on a les joueurs de hockey ici qui tout d'un coup se spécialisent très jeunes, font beaucoup d'heures de hockey. Encore là, ils ne se blessent même pas tant. Mais en fait, si vous avez du tennis, vous avez du foot et qu'il y a une spécialisation hâtive dans ces sports-là, puis qu'il y a du sport-études où tout d'un coup, l'enfant s'amusait toujours, était toujours dans le plaisir sur la quantité et automoduler son volume. Donc, quand il est fatigué, quand il en a marre, ben, il arrête. Hein? Quand il n'a plus de plaisir, il arrête. Versus s'il tombe en sport-études où là, on lui impose des choses, là, c'est un petit peu différent.
OK. Est-ce que justement par rapport à ça, moi j'avais fait un petit sondage justement sur Insta et ce qui revenait régulièrement, c'était risque sur la croissance, risque sur les articulations. Donc ça, est-ce que tu peux dire quand même que voilà, les gens sont, il y a pas de souci vis-à-vis de ça,
aucun. En fait, c'est qu'on a juste ça, c'est les choses qui ont été fréquemment mises de l'avant. Si tu cours trop longtemps, tu cours trop, ben tu vas moins grandir vite. La même chose que la musculation avec des charges, en fin de compte, était proscrite pour les enfants parce que ça allait freiner leur croissance et ainsi de suite. Et on a l'ensemble des données aujourd'hui ne nous montrent que c'est juste bon pour la santé que de soulever des charges et de faire de la course à pied. Et on ne ralentit pas la croissance avec ces activités-là. Ça, c'est un mythe.
Et le deuxième point aussi, excuse-moi, Pierre.
Est-ce que c'est pas un. En fait, on s'est fait une fausse image, c'est un biais de sélection aussi, parce qu'on voyait tous ces gymnastes, par exemple, qui performent, peut-être aussi parce qu'elles sont de petite taille. Et on pensait que c'était le sport qui les rendait petites, alors que c'était peut-être aussi la morphologie qui faisait qu'elles étaient plus performantes. Parce que c'est sûr que quand tu fais 1m90 et que tu veux faire de la gymnastique, bon, ben, c'est quand même plus compliqué. 1m90 et 95 kilos, bah, on se comprend, j'exagère un peu, mais la morphologie joue peut-être aussi pour beaucoup là-dedans.
Oui, oui. Effectivement, c'est un très bon point. L'autre chose aussi, c'est que par exemple, chez l'adolescente qui fait beaucoup de sport, comme par exemple la gymnastique, ça se peut qu'elle repousse ses menstruations et que ce que ça fait finalement, c'est que sa croissance va être un petit peu plus tardive que précoce. Mais ça n'empêche pas l'adaptation et la croissance de la personne, ça la repousse un petit peu plus loin. Parce que ben, finalement, l'entraînement va faire en sorte qu'on n'aura pas les menstruations très tôt, mais un petit peu plus tard en âge. Ce qui n'est pas un problème hein, du tout pour la santé de façon générale. Donc, voilà.
Et ce n'est pas un marqueur de surentraînement que d'avoir un...
Alors, avoir un arrêt des menstruations quand on a eu nos menstruations, ça, c'est un marqueur. En fait, l'hypoestrogénie peut amener une aménorrhée secondaire et ça, c'est clairement problématique. Il faut vraiment être à l'écoute de ces symptômes-là, qui n'est pas du tout la même chose que ben, j'ai 12 ans, mes amis ont leur menstruation, puis moi, je fais du sport et puis je ne les ai pas. Puis à un moment donné, je les ai à 14 ou 15 ans plutôt qu'à 12 ans ou à 13 ans. Et donc, ça, ce n'est pas un problème en soi. Mais avoir ces menstruations puis s'entraîner de façon abondante avec des arrêts menstruels secondaires, ça, c'est problématique. Et si c'est combiné souvent à une surcharge physiologique et de sport mélangée à une consommation en calories qui est un peu moindre, qu'on appelle le Relative Energetic Deficiency in Sport, le REDES, à partir de ce moment-là, là, ça devient problématique pour la densité osseuse, pour la santé de façon générale et ainsi de suite.
Et un troisième point qui revenait souvent aussi, c'était les parents qui me répondaient un message. De toute façon, à cet âge-là, les enfants, ils peuvent pas gérer leur allure et leur vitesse. Donc, ça serait les envoyer au casse-pipe de faire des longues distances et de courir avec son enfant. Voilà, ça, c'est quelque chose quand même qui est revenu énormément dans les messages. Justement, je t'en parle parce que c'est un cliché, je pense, qui est aussi bien ancré dans les croyances des gens.
Alors, ça aussi, ça a aucun sens. En fait, c'est que l'enfant s'auto-régule de façon très bien. En fait, c'est que l'enfant qui va être essoufflé, qui n'aura pas de plaisir, qui va avoir des inconforts, va avoir tendance à arrêter. En fait, c'est un apprentissage de s'amener dans des zones physiologiques où il y a un inconfort puis qu'on persiste dans cet inconfort-là. Ça non plus, ce n'est pas vraiment un problème. En fait, on est beaucoup trop protecteur pour nos enfants. Et il y a des publicités qui n'ont pas apparu au Québec il y a quelques années que j'aimais beaucoup. C'était l'enfant qui, plutôt que de monter les échelles pour descendre le toboggan, qui montait à l'envers, qui marchait sur le truc glissant où tous les parents vont dire « Ah, attention, tu vas te faire mal ». Et la publicité, c'était ben, « Laissons nos enfants se développer optimalement au niveau moteur ». Et ça fait partie de ça. D'aller à l'envers sur le toboggan, ça fait partie de ça. Clairement, je pense vraiment qu'aujourd'hui, notre protectionnisme, notre peur de blesser, notre peur de faire mal est mélangé à tout ça, au sédentarisme qui existe déjà par les tablettes, les écrans et ainsi de suite, est un vrai fléau qu'il faut vraiment combattre aujourd'hui.
Pour toi, un enfant qui a même 10 ans pourrait, avec en s'entraînant normalement, si vraiment il aime ça, il pourrait très bien faire peut-être un 10 km, bien sûr en respectant les principes de progressivité ou quoi, ou il n'y aurait aucun souci. Si depuis tout petit, il a commencé, qu'il court tout ça, qu'il aime, qu'il a adhéré, qu'il n'a pas de douleur, que tout se passe bien, il mange bien, il n'y aurait aucun souci.
Aucun souci. Alors, je vais te donner des exemples extrêmement concrets. On a un petit garçon au Québec ici, qui est le copain de ma fille, qui fait des 5 km, des 10 km. Puis bon, il a 12, 13 ans et il fait déjà en dessous de 18 minutes sur 5. Donc, il a du talent. Et puis, à un moment donné, il y a un backyard. Je ne sais pas si vous utilisez ça. C'est des boucles de, admettons, 6 km et à chaque heure, tu en fais un.
Nous, on ne fait pas d'anglicisme, Blaise. Hein.
Ah oui, ouais, jamais. En France, c'est vrai. Comment vous appelez ça, le backyard?
Non, mais on appelle ça comme ça aussi.
Ah bon, ok.
Si, si.
C'est un terrain de jeu.
Ouais, c'est des courses comme ça. En fait, c'est des courses où tu fais une boucle et tu enchaînes les boucles, en fait.
C'est des courses comme ça. Et à toutes les heures, tu repars. Donc, si tu as un 6 km, admettons, de trail, ben, ce que ça fait, c'est que souvent, tu vas devoir. Tu vas avoir 10 minutes, 15 minutes, peut-être 20 minutes de repos, mais finalement, tu repars et t'enchaînes. Et lui, ben, c'est un coureur qui court passablement. Puis à un moment donné, il a envie de faire ça. Mais il a 13 ans. Ah ben, il a fait 80 kilos. Et la question, c'est, j'ai dit, ouais, bon, c'est peut-être pas extraordinaire pour ta santé de faire 80 kilos à 13 ans. Mais ça venait pleinement de lui. Il avait ce désir. Il repartait à toutes les heures. Comment il en est sorti? Bon, il a été courbaturé pendant peut-être 2-3 jours. Et puis finalement, ben voilà. Et quand tu regardes des exemples comme Kylian Jornet, qui lui a grandi dans l'activité physique, à marcher, à courir avec sa mère dans les montagnes et à faire des heures et des heures de déplacements et de trucs, ben, tu te dis, finalement, il n'est pas si mal en santé que ça. Tu sais, on a toujours peur que ça amène de l'arthrose, de la dégénérescence, des blessures, des problèmes de toutes sortes. Et finalement, la science ne justifie pas ça. Et autant on est restrictif sur la course à pied, autant quelqu'un qui joue au foot, il peut jouer un match tous les jours s'il voulait, puis ça ne nous dérangerait pas.
Puis faire plusieurs matchs le même jour et le soir au quartier, rejouer avec les copains.
Exact.
Ah, c'est vrai.
Ce qui est excellent, ce qui est très bien. En fait, si ça vient de l'enfant encore une fois et qu'il a envie d'aller jouer, je peux vous garantir que si jamais il commence à être en état de fatigue physiologique et que son corps commence à lui dire, il n'aura pas trop envie d'y aller. Donc, ne le limitons pas. La problématique qu'on peut avoir chez les enfants, comme ça, c'est ceux qui ont un très fort désir intellectuel, qui sont des profils qu'on appelle de type A, qui sont des personnes qui ont envie de devenir bons, qui veulent et qui s'entraînent toujours beaucoup pour devenir bons avec cette vision d'amélioration, et que ces athlètes-là, en fin de compte, développent tout d'un coup une blessure musculosquelettique, qui est un des premiers signes que, oh, là, j'en ai trop fait par rapport à ma tolérance. Et les blessures musculosquelettiques, c'est toujours le différentiel. C'est pas ce que tu as fait, c'est de où tu arrives et où tu vas. Et ce différentiel cause la blessure musculosquelettique. Donc, souvent, on a des jeunes très volontaires qui ont envie, qui font plein de choses, qui tout d'un coup se blessent et qui sont découragés de s'être blessés parce qu'ils ont exagéré, ils se sont fait mal au genou et puis finalement, ben là, ils sont obligés de se reposer. Et chez l'adolescent, là, ça devient essentiel d'écouter son corps, de progresser avec douceur. Et peut-être qu'il y en a certains à travers tout ça, j'étais un de ces enfants-là qui ont des biologies fragiles, qui se blessent facilement et qui vont apprendre à travers les années à bien doser et à bien gérer en regard de leur corps. Mais la majorité des enfants, surtout s'ils commencent très très tôt, ben, ce n'est pas un problème.
Et est-ce qu'il y a des éléments spécifiques à l'entraînement pour l'enfant? On parle notamment des notions de progressivité. Souvent, on a ces 10%, souvent sur le volume hebdomadaire, sur la sortie longue. Est-ce que ça marche aussi pour l'enfant ou est-ce qu'on peut être un peu plus prudent? Ça serait quoi ta recommandation par rapport à ça?
Non, mais moins prudent. C'est-à-dire que tu peux faire plus de folie quand tu es plus jeune avec un corps qui s'adapte extrêmement vite que quand tu es plus vieux. Moi, je ne peux plus faire de folie. Moi, il faut que je calcule mon volume, mes quantités. Je ne peux pas demain décider d'aller faire 10 fois 400 mètres pleine vitesse si ça fait des mois que je n'ai pas fait des intervalles. Je peux pas, je suis obligé de contrôler le niveau de stress que j'applique sur mon corps qui a une capacité d'adaptation beaucoup plus limitée que mes enfants ou que ma petite fille. Fait que ça, c'est une chose. L'autre chose...
Est-ce que tu peux expliquer pourquoi l'adaptation d'un enfant est supérieure à toi?
En fait, c'est que son métabolisme tissulaire, sa réparation tissulaire est 10 fois plus rapide que quelqu'un de plus âgé. C'est-à-dire que tu vas traumatiser une fibre musculaire, tu vas créer des microbris dans la fibre musculaire. Le métabolisme est tellement élevé que finalement, au bout de quelques heures, jours, c'est réparé. La même personne avec le même tissu, en fin de compte, qui a 50 ans, ben, va guérir moins vite. Ça va y prendre plus de temps. Et donc, on récupère beaucoup plus vite quand on est jeune que quand on est plus vieux.
Musculaire, tendineux aussi.
Même chose.
Articulaire.
Au niveau osseux, au niveau articulaire, tout a un métabolisme plus élevé. La seule chose que j'ai envie d'ajouter, c'est que quand tu prends de l'âge, il y a un certain avantage à prendre de l'âge. Et l'avantage, ce n'est pas que ton métabolisme est plus lent puis que tu as pris de l'âge, c'est que tu as un antécédent de stress mécanique qui a solidifié tes structures. Donc, quand tu as 50 ans, tu ne te fais plus de fractures de stress. En fait, c'est que tes os se sont solidifiés à travers tes 50 années de stress mécanique. Alors, bien évidemment, quelqu'un qui est très sédentaire toute sa vie et qui a 50 ans fait de l'activité, lui, il n'est pas dans la meilleure des situations parce qu'il a un métabolisme plus lent et il n'a pas l'antécédent qui vient avec. Le jeune va se faire des fractures de stress parce que lui, il a une tête qui veut faire plein de choses, il fait beaucoup de choses et là, tout d'un coup, il surcharge son corps par rapport à ses habitudes. Mais si je reviens aux jeunes, la meilleure manière de ne pas se blesser, c'est de s'assurer comme parents de les laisser très actifs dès leur jeune âge. Le jeune âge, ce n'est pas 6 ans, ce n'est pas 7 ans, c'est 1 an. C'est que quand ils ont 1 an puis qu'ils commencent à marcher, puis quand ils commencent à courir, ben, il faut les laisser marcher, courir, grimper, rouler, patiner, lancer. Il faut qu'ils développent leur capacité motrice, en fin de compte, à faire toutes sortes de choses.
Et justement, par rapport à ça, c'est vrai que là, on parle des enfants qui, justement, ont envie de courir, qui ont un miroir peut-être de leurs parents, qui voient leurs parents qui courent. Mais quel comportement avoir si, au contraire, notre enfant n'a pas envie ? On sait que bon, tu nous dis tout ça, Blaise, donc c'est super pour la santé, on l'a bien compris. Mon enfant n'a pas envie. Est-ce qu'à cet âge-là, je le force ? Est-ce qu'il y a un âge, justement, sur lequel j'ai vu qu'apparemment, il y aurait 11-12 ans, ça serait à peu près l'âge de la décision chez l'enfant. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais quel discours à avoir ? On force les enfants à avoir une activité physique ? On trouve cette activité physique ? Qu'est-ce que tu conseilles ?
Alors, moi, j'ai envie de te poser une question.
Allez, vas-y.
Si ton enfant, il dit « moi, j'aime pas me brosser les dents », est-ce qu'il a une obligation de se brosser les dents ou pas ?
Bonjour à tous, c'est Pams. Je me permets d'interrompre juste 30 secondes le podcast pour vous présenter mon nouveau livre qui est disponible « Deviens ton coach running » dans lequel j'explique tout sur les mécanismes d'entraînement, la nutrition, la récupération, le renforcement. Il y a même un bilan articulaire où vous allez pouvoir tester et connaître l'état de vos différentes articulations. Je vous mettrai le lien du livre en description et vous avez aussi un coaching offert avec l'achat de ce livre. Il suffit de m'envoyer la preuve d'achat en message sur Instagram et on fait un bilan ensemble, 100% personnalisé et vous recevez votre programme de course à pied et de renfo. Retour au podcast, toutes les indications seront en description. Merci.
Oui, bien sûr. Mais après, c'est parce que, en fait, je te pose cette question, Blaise, parce qu'on est en ce moment, justement, moi, je suis complètement d'accord avec toi, où je trouve qu'on protège trop les enfants, on met trop de pincettes. Et je l'ai dit notamment, moi, j'habite en bas de Notre-Dame à Marseille, je le répète ici, mais je vois il y a 70 mètres de dénivelé qu'avec des marches. Et je vois des enfants de 7 ans qui, les parents les portent pour monter à Notre-Dame. Et les enfants, ils sont capables de le faire. Mais en fait, ils veulent juste protéger leurs enfants en se disant « oui, ça va être dur pour lui », alors que ce n'est pas l'aider pour moi. Donc, je suis entièrement d'accord qu'il faut, pour moi, il faudrait les pousser. Mais je voulais avoir ton discours. C'est toi l'invité, c'est toi qui as les clés du podcast.
OK. Alors, moi, ma question sur les dents, j'aime beaucoup la poser parce que ça nous confronte. Ça nous confronte au fait qu'on ne veut pas forcer l'enfant à faire de l'activité physique, mais c'est essentiel pour sa santé et on a une responsabilité comme parent à l'amener à l'âge adulte en santé. Parce que si l'enfant arrive à l'âge de 18 ans, de 16 ans, de 14 ans et qu'il est obèse, pas en santé avec un VO2 max de 20, c'est le problème des parents d'abord et avant tout. C'est les parents qui n'ont pas fait leur travail de parents et qui n'ont pas stimulé l'enfant suffisamment. Donc, quand je parle de dents, c'est pour provoquer. Bien évidemment, moi, mes enfants, c'était comme non, t'as pas le choix, il faut que tu te brosses les dents le soir et puis voilà. Mais l'activité physique, sur la santé de façon générale, c'est aussi voire plus important que se brosser les dents. Donc, comment on fait pour intégrer l'activité physique au jeune, en fin de compte, qui n'a pas le désir, qui est un petit peu plus amorphe, qui n'a pas envie de s'activer? Eh bien, là, bien évidemment, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a On peut intégrer l'activité physique par le jeu. On peut activer l'activité physique par la nécessité. Tu vas à l'école à pied. T'aimes pas courir, mais on va jouer au foot, on va botter des ballons. Et on fait de l'activité, en fin de compte, simplement de façon ludique, avec plaisir, pour essayer de donner le goût de l'activité physique aux enfants. Parce que on leur enseigne aussi des choses en bas âge qui vont faire en sorte qu'ils vont le reproduire plus tard. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'activité physique en bas âge est un bon prédicteur que les jeunes, en devenant plus vieux, vont continuer de faire de l'activité physique plus tard. À l'opposé d'une spécialisation hâtive où c'est toujours la même activité qui n'est pas dans le plaisir, encore pire, et qu'on répète quotidiennement, qui, elle, est un bon prédicteur que l'individu ne fera pas cette activité-là plus tard. Donc, si ton enfant est un petit peu plus profil, on va dire, paresseux sédentaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas portée, ton enfant n'est pas porté à faire de l'activité, ben, il faut trouver plein de manières d'essayer de la stimuler. De
Mais
stimuler ton enfant
il faut
pour
le
bouger.
forcer. Voilà, il faut
Mais
trouver une solution.
alors, stimuler, forcer, je ferais quand même une différence. Le stimuler, c'est. Parce que tu sais, c'est aussi beaucoup la responsabilité des parents. Moi, je suis devant mon ordi, je fais mes trucs, et puis là, bon, ils arrivent de l'école, et puis là, je n'ai pas fini mon travail, et puis je continue de travailler sur mon ordi plutôt que de me libérer et dire OK, on va dehors ensemble. Alors, c'est sûr que si je dis à mes jeunes allez dehors, puis ils n'ont pas envie, et que moi, je ne contribue pas et que je ne participe pas, ça va être plus difficile. Mais si on est capable de faire des activités, de les varier, d'avoir du plaisir à les faire, parfois d'avoir des récompenses par rapport à certaines activités. Puis la récompense, l'idéal, c'est qu'elles soient intrinsèques, c'est que le jeune, il se sente bien, il sente qu'il a fait de l'activité, qu'il a fait quelque chose qui était nourrissant, qu'il a construit quelque chose, qui s'est développé, puis qu'il devient bon pour qu'à l'école, il soit meilleur quand il va aller jouer au foot avec ses amis. Ça, c'est beaucoup plus mobilisant quand c'est intrinsèque. Mais on peut même se poser la question, tellement c'est important l'activité, dans quelle mesure un intérêt extrinsèque, c'est-à-dire si on va faire ton heure de sport, ben, tu as le droit à 30 minutes de tablette, dans quelle mesure ça peut être une récompense qui les motive à bouger davantage?
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast.
Ok. Et est-ce que pour les parents qui nous écoutent, est-ce que tu aurais quelques chiffres ou éléments qui pourraient pousser justement à... Parce que peut-être que les parents aussi n'ont pas conscience de l'importance que ça peut avoir l'activité physique sur la santé de leurs enfants. Je prends notamment cet exemple de la dispense de sport. Il y a des parents qui acceptent de dispenser parfois leurs enfants à l'école, alors que jamais on dispenserait un cours de maths à nos enfants. Il y a ce regard par rapport à l'activité physique qui est pas forcément santé. Je pense que les gens ne font pas forcément le lien entre les deux.
Ou la
Est-ce que tu as
dispense de
des...
brossage de dents, ce que
Aussi.
disait Blaise.
Aussi.
Oui. Non, mais
Donc, est-ce
en
que
fait,
tu aurais
c'est
des
que.
chiffres à leur donner pour leur faire prendre conscience, peut-être pas des chiffres, mais des éléments qui pourraient leur faire prendre conscience justement de l'importance que ça a pour un enfant d'avoir de l'activité physique sur sa santé à court, moyen et long terme, justement?
Mais on a des répercussions d'abord directes sur la santé de l'enfant. Et là, je pense, temps de concentration à l'école. Réduction des troubles de l'hyperactivité où finalement l'enfant a de la peine à se concentrer. On a une meilleure santé mentale, donc on a beaucoup d'évidence qui montre qu'on a moins de dépression, moins de détresse psychologique, etc. Bien évidemment, ça va donner confiance en l'enfant par rapport à son cheminement et par rapport à sa relation aux autres. Le sport a vraiment des influences multiples chez l'enfant, de la même manière qu'elles sont multiples chez l'adulte. Et encore une fois, faire de l'activité physique quand on est plus jeune, c'est pour deux raisons. C'est pour le moment présent, c'est-à-dire être capable de justement avoir tous ces avantages que je viens de nommer, mais c'est aussi pour prendre des habitudes qui vont faire en sorte que plus tard, on va avoir moins de cancers, moins de maladies cardiovasculaires, moins de diabète, moins de fractures ostéoporotiques, moins de dépression psychologique. Donc, il y a un effet immédiat, oui, qu'on peut identifier. Mais c'est surtout, en fin de compte, sur le long terme, la santé ne commence pas à se construire à 30 ans. La santé se construit en bas âge. Et je donne un exemple tout simple. Vous êtes une femme caucasienne, blanche, plutôt fine au niveau ectomorphe, c'est-à-dire pas très costaude, mais plutôt fine. Ben, vous êtes plus à risque de développer de l'ostéoporose plus tard et d'avoir plein de problèmes en âge avancé. Et la phase de l'adolescence, si vous avez des activités avec des sauts, vous jouez au basket, vous jouez, vous sautez, vous faites des choses comme ça. vous allez avoir des os qui vont vous protéger le reste de votre vie pendant que vous faites ça à l'adolescence. Parce que votre densité osseuse et votre capacité de votre tolérance osseuse va être plus grande pendant cette période-là. Et il ne suffit pas de boire du lait, hein, parenthèse. Hein. Vous pouvez boire autant, manger autant de calcium que vous voulez, boire autant de lait que vous voulez, ça ne changera rien. Ce qu'il faut, c'est stimuler par mécanotransduction l'os à des impacts pour qu'il devienne plus solide. Et c'est la même chose avec le cartilage, c'est la même chose avec vos tendons. Vous construisez dans votre enfance et votre adolescence le corps solide et robuste que vous allez vivre avec pendant le reste de votre vie.
Pour compléter effectivement tout ça, on a reçu Valentin Copin, qui est kiné spécialisé dans les tendinopathies et qui nous a parlé justement de la création de ce capital tendineux pendant les jeunes années de notre vie quand on s'expose à du stress mécanique. Bien géré, bien dosé, mais forcément positif. Et je fais aussi le lien avec, j'ai perdu son nom à l'instant, qui a étudié le modèle discal. Tu dois connaître le nom je suis désolé, en plus j'aimerais citer parce qu'il a fait un travail remarquable sur le disque et il parlait justement du capital discal qu'on allait créer pendant l'adolescence parce que le disque avait une activité métabolique très très importante. Alors qu'à l'âge adulte, elle était quasi nulle. Il y avait plus de, enfin, c'était anecdotique, on va dire. Alors que pendant l'enfance et l'adolescence, là, on allait pouvoir créer du coup ce capital discal qui allait pouvoir aussi nous protéger pendant toute notre vie. Donc,
Mais en fait, ce que tu viens de nommer, quand tu parles des tendons, des disques, c'est la même chose que les cartilages, les os, les muscles. En fait, ce capital se construit pendant l'enfance et l'adolescence. Et un manque de stimuli pendant cette période-là va laisser une certaine, on va dire, fragilité pour l'ensemble de l'âge adulte. Donc, clairement, il faut que les enfants bougent, non seulement pour avoir un système musculo-squelettique solide, mais c'est vrai aussi sur la vulnérabilité à... Tu sais, maintenant, on a des diabètes de type 2 de plus en plus jeunes. Et quand je dis de plus en plus jeunes, c'est que c'est vraiment jeune. On a des diabètes de type 2 aux États-Unis à 20 ans.
Et Jean-Philippe Deneville, voilà, ça doit te parler ce nom, Blaise.
Oui. Mécaniste.
C'est ça, qui a fait sa thèse sur le modèle du discal.
Et juste, on parle d'activité physique. Est-ce qu'il y a aussi à côté des choses sur lesquelles on a parlé un petit peu de nutrition, mais justement, est-ce que pour les parents et les accompagner, est-ce qu'il faut faire attention aussi justement à avoir une nutrition qui va être un peu plus importante, peut-être en protéines, au niveau du sommeil aussi, est-ce qu'il y a des données parce que si l'activité augmente, peut-être qu'on a besoin aussi à côté de notre mode de vie d'avoir des prérequis un peu plus importants. Est-ce que tu aurais des recommandations par rapport à ça?
Alors, le sommeil augmente en regard de la quantité d'activité physique qu'on va faire. Donc, souvent, plus on est actif, plus on a besoin de sommeil, qui est réparateur, qui va simplement, non pas seulement moduler et structurer le système nerveux, mais aussi faire en sorte qu'on va se réparer pendant cette période-là. Donc, très simplement, on a de plus en plus d'études aujourd'hui qui nous montrent le lien entre le sommeil, les blessures, le sommeil et la performance de façon générale dans les sports. Clairement, le sommeil est un élément central qu'on a oublié pendant des années, mais qui, dans les, je dirais, 5 dernières années, a vraiment un gros engouement et scientifique et clinique. Moi, ça fait partie des questions maintenant que je demande systématiquement à mes patients.
Pour un enfant, on conseillerait combien? Ça dépend de l'âge, j'imagine, mais au moins 10 heures de sommeil par nuit, même jusqu'à l'adolescence.
Encore une fois, le sommeil n'est pas ma spécialité clinique, on a des courbes normales de distribution qui font en sorte que certains ont besoin de plus ou de moins de sommeil. Donc, c'est vraiment propre à chaque individu. Mais ce qu'on sait, c'est que la majorité des gens, c'est-à-dire la très grande majorité, ont des besoins en sommeil qui sont quand même beaucoup plus considérables qu'on pensait. C'est très rare d'avoir des gens qui se suffisent avec une santé optimale, avec des 5 ou des 6 heures. Très, très rare. Beaucoup plus rare qu'on pensait. Donc, souvent, chez l'âge adulte, on va dire la moyenne est entre 7 et 8 heures. Il y en a que c'est 9 heures. Il y en a peut-être que c'est 7 heures. Mais le 8 heures est pas mal, on va dire, le haut de la distribution normale, grossièrement. Chez l'enfant, tu rajoutes, chez l'adolescent, tu rajoutes une heure ou deux. Et même encore chez l'enfant, c'est même plus que ça encore. Donc, il faut clairement que les enfants dorment un maximum. Et une des problématiques aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui dorment moins, encore une fois, à cause de l'exposition aux écrans, à cause du stimuli du sommeil, mais avec l'obligation de se lever le matin pour aller à l'école, quand idéalement, si il n'y avait pas de cadran, ils dormiraient jusqu'à 10 heures. mais là, ils sont obligés de se lever pour aller à l'école. Et c'est là qu'on est en privation de sommeil avec des effets néfastes et des conséquences sur la santé musculo-squelettique, le risque de blessures et traumatiques et non traumatiques. Tu as plus de chances de te faire une tendinopathie, d'éveiller une douleur tendineuse par répétition, mais tu as aussi plus de chances de te casser une jambe ou de te briser un ligament croisé antérieur parce que tu manques de sommeil et que ton système nerveux dans la gestion et le contrôle moteur n'est pas optimal.
Oui, tu t exposes à de la
L'autre
fatigue.
volet, hein?
Tu t'exposes à de la fatigue, finalement.
Oui, mais en fait, la fatigue, elle est nerveuse, elle est corrélée à la capacité de gérer la proprioception, la stabilité, les mouvements, la coordination. Et cette fatigue-là, neurologique, en fin de compte, peut amener à être moins performant sur l'ensemble de ces systèmes qui t'exposent à être plus à risque de blessures traumatiques et de blessures non traumatiques.
Donc, est-ce que la fatigue chez l'enfant peut être un repère de peut-être d'entraînement un peu trop important ou de manque de sommeil? Ou parce que souvent on a l'impression que les enfants, j'entends beaucoup cette phrase, ils sont toujours fatigués, tu vois, et ça revient souvent. Donc c'est un repère en disant vous dormez pas assez, on est d'accord.
S'ils sont fatigués, ils dorment pas assez. Ça, c'est très, très probable. Le seul
Ah, parce qu'on
problème
dit
qu'on a,
oui,
c'est
c'est les
que...
hormones. Excuse-moi, Blaise, je te coupe, mais souvent c'est oui, c'est les hormones. Tu comprends, à cet âge-là, ils grandissent beaucoup. C'est l'école. Souvent, on se cache derrière des excuses.
En fait, il y a la
Mais
play dans la chambre. C'est ça qu'ils savent pas, les parents.
oui, après, c'est vrai que c'est l'école. Parce que l'enfant qui est stimulé le soir et qui s'endort pas parce qu'il est sur son téléphone, et que le matin, il est obligé de se lever, c'est là qu'on tombe en dette de sommeil. Si, admettons, l'enfant avait la possibilité, d'abord, tout ce qui est électrique, meurt à 8 heures le soir, idéalement, et que, l'enfant n'est pas réveillé par le cadran, mais il dort autant qu'il veut le matin, sans aucun problème, il n'y aurait pas de dette de sommeil. En fait, c'est notre vie aujourd'hui. Il y en a qui ont des cycles tardifs, donc ils vont avoir tendance à se coucher tard et ils dormiraient tard le matin. Le problème, c'est que quand tu vas à l'école commence à la même heure pour tout le monde. Et donc là, on a plein de jeunes, en fin de compte, qui ne sont pas dans leur cycle et que le soir, ils ont de la peine à s'endormir ou à vouloir se coucher, en même temps que le matin, ils sont obligés de se lever. Et ça, c'est un problème.
Faites dormir vos enfants. En plus, vous serez tranquille à la maison avec votre femme, peu importe. Vous serez tranquille. Les enfants dorment et vous serez
Oui.
bien. Faites-les
Et
dormir le plus tôt possible. C'est bien.
l'enfant, en fin de compte, qui le week-end dort jusqu'à 10 heures le matin dans sa chambre, à dormir, mais que la semaine, il faut qu'il se lève à 7h30 pour aller à l'école à 8. Clairement, il n'est pas dans son rythme naturel. On devrait tous, normalement, peu importe l'âge, se réveiller sans alarme, sans cadran.
Et être.
L'autre chose qu'on n'a pas discuté, oui, vas-y,
Vas-y.
excuse.
Mais non, vas-y, 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 t'inquiète, vas-y, Blaise, dis-moi.
L'autre chose qu'on n'a pas discuté, c'est la nutrition. Bon, là, ça vaudrait la peine de questionner nos experts de nutrition à la clinique du coureur, mais en fait, la nutrition a une importance capitale chez l'adolescent, l'adolescente, quand on parle de quantité, c'est-à-dire un apport calorique suffisant pour suffire à l'ensemble de tous nos systèmes pour qu'ils fonctionnent et ne pas tomber dans le red S, qui est la déficience énergétique relative dans les sports qui va causer souvent une aménorrhée par hypoestrogénie et secondairement de l'ostéoporose, ostéopénie, etc., etc. Donc, ça, c'est primordial. La majorité, je pense, des Français et des Québécois aujourd'hui mangent quand même un peu plus variés, mangent des aliments d'un peu meilleure qualité, peut-être qu'on a eu il y a peut-être 30 ans, mais probablement moins qu'il y a 60 ans. En fait, c'est qu'on a des aliments de plus en plus transformés, beaucoup de choses raffinées, beaucoup, beaucoup de sucre qui sont non optimales. Faire le lien entre ça et les blessures ou le surentraînement est un peu plus complexe, surtout pour moi qui n'ai pas cette expertise-là. Mais clairement, ça joue un rôle. Donc, si on prend les trois piliers qui sont le sommeil, la nutrition et l'activité physique, ils ont tous des interrelations les uns avec les autres.
Est-ce qu'il faut faire confiance à l'instinct de l'enfant pour se nourrir? C'est-à-dire, tant qu'il a faim, il mange. Surtout, c'est un enfant qui a un gros volume d'entraînement. Est-ce qu'on peut faire confiance justement à cet instinct d'avoir faim? C'est qu'il a encore un besoin de calories présent. Je complète ma question. Ou est-ce qu'il faut quand même avoir une certaine. C'est pas. Il faut quand même avoir une stratégie de. On s'entend peut-être le terme est mal choisi, mais tu sais, de se dire, bon, mais combien est-ce que 2 grammes de protéines est-ce qu'il consomme dans la journée? Est-ce que ce serait intéressant de voir ça? et de voir sur la semaine quelle est la consommation. Je parle pour des enfants qui ont une activité physique qui est quand même conséquente. Quoique peut-être en fait pour tous les enfants. Hein.
Ben, moi, alors c'est sûr que si vous parlez avec les nutritionnistes de la clinique du coureur, ils vont probablement vous donner des chiffres précis, ils vont vous parler de l'importance des protéines. Moi, je pense que chez l'enfant, d'abord, la capacité d'adaptation à l'environnement est tellement importante que même sur la nutrition, il y a des adaptations qui se font de façon considérable. Moi, je pense que l'idéal, c'est d'offrir à l'enfant de la qualité dans la nutrition, des produits simples. Des produits, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Si jamais il y a du blé, ben c'est du blé entier, du pain au blé entier, d'avoir des huiles, des noix. Et à partir de cette offre-là, l'enfant, s'il a faim, il faut qu'il mange.
Et justement, s'il n'a pas faim, ça c'est aussi une question qui peut revenir souvent. Il se peut que des fois, après une activité physique, un enfant n'ait pas faim. Qu'est-ce qu'on fait? Quel discours on a? Est-ce qu'on le force un petit peu à manger en disant finis ton assiette? Quelle est ta recommandation?
Tu le forces à aller courir, tu le forces à manger, tu le forces à
C'est
dormir.
ça.
Ouais, mais moi, je me rappelle qu'à mon époque, ma mère,
À 18 ans, il revient plus
tant
à
que
la
j'avais pas
maison.
fini mon assiette, c'était, je restais à table. Hein. Des fois, je restais une demi-heure et bon, maintenant, j'aime tout. Hein. J'aime tous les fruits, j'aime tous les légumes, il n'y a pas de souci.
Ouais.
Ça a marché.
Alors.
Après, je conseille peut-être pas de le faire avec tout le monde, mais moi, perso, ça a marché.
Mais là, il faut faire la différence entre l'enfant qui est picky, qui n'aime pas les légumes, qui n'aime pas XY, hein, parce que moi, j'ai été élevé comme ça. Il ne faut pas mélanger non plus le gaspillage alimentaire qui, moi, dans mon temps, n'existait pas. Hein. Nous, j'ai été élevé sur une ferme. Ce que j'avais dans l'assiette, c'est ce qui venait de dehors de la ferme qu'on avait cultivé, qu'on avait élevé, ça avait beaucoup de valeur. Donc, on finissait notre assiette. Et si jamais on mangeait plus que notre faim, ben, il n'y avait pas trop d'inquiétude, hein, parce que tu en mettais un peu de réserve, puis au prochain repas, tu pouvais manger un petit peu moins si tu voulais. Ce n'était pas vraiment un problème. Et je pense que chez l'athlète, le jeune athlète sportif qui bouge beaucoup, ce n'est pas un problème de finir son assiette, ou à l'opposé, de faire un peu d'anorexie d'effort à un moment donné parce qu'on a fait un gros entraînement et que finalement, ben, ce n'est pas là qu'on a faim et que moi, je pense qu'on peut respecter cette petite anorexie d'effort en fin de compte. Parce que au prochain repas, là, on va avoir deux fois plus faim parce que là, on va avoir un besoin d'apport calorique. Moi, je pense qu'il faut être prudent aussi avec les adolescents et les enfants de trop focusser sur justement la nutrition dans le sens de quantité. Mange ton assiette, t'as pas assez mangé, mange pas trop parce que tu vas prendre du poids. L'ensemble de ces facteurs-là, je pense, on doit être très prudent comme parents autour de ça. Mais proposer des aliments de qualité. Faire en sorte que ces aliments-là sont disponibles. De toujours avoir, chez nous, on a un plat de fruits. Le plat de fruits, il est là, et puis il y a des noix dans le garde-robe pour n'importe qui, n'importe quand, qui sont disponibles. Ça, moi, je pense que c'est une bonne chose pour faire en sorte que si l'enfant a faim, ben, qu'il puisse manger. Et je ne sais pas vous, à votre adolescence, mais moi, je mangeais mais une quantité astronomique d'aliments. On était ultra actifs, on travaillait sur la ferme, on faisait en plus de la course à pied, mais je mangeais, mangeais, mangeais des quantités. Je mangeais probablement 4 fois plus qu'aujourd'hui en apport calorique.
Et ouais, mais peut-être que tu bougeais plus aussi, Blaise, hein?
Un peu,
Un
oui,
peu.
je suis beaucoup plus devant mon ordi aujourd'hui, mais j'ai aussi 50 ans, donc mon métabolisme a fortement ralenti.
Et est-ce qu'on achète une balance justement à la maison? Est-ce que c'est quoi ta relation par rapport à cette balance qui peut être un peu clivante parfois, justement, la question du poids, de se
Ouais.
regarder? Mais ça peut aussi être un bon indicateur sur justement un profil d'un enfant. Moi, je parle pour mon cas parce que moi, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai toujours été assez mince, assez peut-être maigre pour certains. Et tu vois, des fois, ça m'arrivait de pas avoir faim justement le soir après un gros entraînement de foot. On s'entraînait quand même à haute intensité. Et j'étais toujours mince. Tu vois, est-ce que ça peut être aussi dans ce profil-là quelque chose qui te dit, bah, attention, là quand même, peut-être que c'est un peu border. Peut-être que dans l'autre sens aussi, il faudrait le faire pour des adolescents qui sont un peu plus en surpoids. C'est dur aussi parce que c'est se confronter à un chiffre, à une réalité. Qu'est-ce que tu conseilles justement aux parents? Désolé, c'est pas facile celle-là.
Non, non, mais puis j'ai pas de conseils et je veux surtout pas me plonger dans un sujet de controverse comme ça. Chez nous, on n'a pas de balance. On mange à notre faim et on mange quand on a faim. Et puis, bien évidemment, j'ai des jeunes, j'ai des adolescents. On parle beaucoup de qualité nutritionnelle. On ne parle pas de quantité nutritionnelle. Après, il suffit que tout d'un coup, on a un enfant où on voit qu'il commence à avoir des troubles alimentaires. Pour devoir peut-être changer de stratégie, puis de dire, OK, il faudrait peut-être manger davantage ou s'assurer d'avoir un apport minimal en calories, en protéines. ou à l'opposé, d'avoir un enfant qui tout d'un coup fait des crises phagiques où il va manger, 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 et que là tu dis, OK, là on a une autre problématique qui est plus de l'anorexie ou mais plus de la boulimie, puis que là ben, on va gérer différemment. J'ai la chance dans ma famille de ne pas avoir ces problématiques-là, mais on n'a pas de balance et on ne parle jamais de quantité d'aliments. On parle de bien manger, d'arrêter de manger du chocolat, du sucre et plein de trucs, de proposer des aliments qui sont santé et à partir de ça, de stimuler à faire de l'activité et de manger à sa faim.
Peut-être juste pour finir, Blaise, on n'en a pas parlé, peut-être les pathologies qu'on retrouve chez l'enfant coureur, justement, on en a un petit peu évoqué, ça rentrait trop dans le détail. Est-ce que tu pourrais nous donner les deux, trois pathologies pour les parents et justement, bon, bien sûr, consulter un professionnel de santé, mais donner aussi des pistes peut-être?
Oui, alors on en a deux pathologies classiques de chez l'enfant, il y en a plein d'autres, hein. Je ne parlerai pas de la maladie de Freiberg chez l'ado, l'insuline et compagnie, mais je vais vous parler de la maladie de Sévère. On appelle ça une maladie, ce n'est pas tant une maladie, c'est la plaque de croissance du calcanéum au niveau du talon qui est en surcharge parce qu'on a trop sauté, on a trop tiré sur le tendon d'Achille ou percuté le sol avec le talon. Donc, souvent, ça va donner des douleurs de part et d'autre du calcanéum au niveau du talon. Ça peut donner des douleurs globales en dessous du talon aussi. Et ben, ces personnes-là, en fin de compte, souvent, un peu de repos va être suffisant pour se normaliser. Fait que ça, c'est la première chose. L'autre pathologie classique, c'est l'Osgood-Schlatter, qui est une pathologie en dessous de la rotule. Il y a une fameuse bosse et on voit souvent ça chez les joueurs de foot, les joueurs de basket encore plus fréquemment. C'est une bosse qui va se développer. Encore une fois, il y a une plaque de croissance dans le tubercule antérieur du tibia et la traction répétée du tendon rotulien et de la rotule, en fin de compte, sur cette attache, fait en sorte que ça amène un petit décollement, une petite traction qui va amener une bosse. Et ben, quand on va arriver à l'âge adulte et que ça va avoir consolidé, que ça va avoir pleinement cicatrisé, qu'il n'y aura plus de plaque de croissance, ben, il n'y a plus de problème. Mais il y en a qui vivent avec une bosse toute leur vie. Ils vont des fois avoir mal quand ils vont se mettre à genoux parce que la bosse appuie directement. Mais à l'adolescence, ça peut être problématique. On voit quand même passablement ça chez les joueurs de foot en Europe. Et,
Moi, je l'ai eu. Je l'ai eu personnellement. Ouais, je l'ai eu.
OK. Le mode de traitement de ces conditions-là, c'est d'être extrêmement agressif sur du court terme quand ça vient juste d'apparaître. Mais quand c'est là depuis longtemps, ben c'est la quantification du stress mécanique avec symptômes permis parfois qui permet de rester actif et de ne pas trop arrêter. Mais si jamais vous avez ton enfant développe une douleur à la tubérosité tibiale antérieure ou au calcanéum, ben là, c'est immédiatement quelques jours de repos, reprise graduelle, pour être sûr, en fin de compte, qu'on n'ait pas de séquelles secondaires. Et si jamais tu as fait des gros sauts, j'ai un ami, il montait sur un talus, il sautait en bas, il a fait ça une dizaine de fois, et le lendemain, ben, il avait un beau petit décollement de sa tubérosité, de sa plaque de croissance au niveau du genou, et puis ben, on l'a mis dans un Zimmer, c'est-à-dire une attelle bien rigide, pour 2 semaines, pour être sûr, en fait, qu'il récupère pleinement et qu'il ne traîne pas ça l'ensemble de son adolescence. Donc, à faire ça, on a réussi après ça à reprendre graduellement, et 1 mois plus tard, il était pleinement fonctionnel, plutôt que de continuer de sauter, courir sur la douleur, d'entretenir cette irritation à ce niveau-là et d'avoir quelques années de douleur.
C'est un cas particulier.
Oui, c'est assez particulier. À l'opposé, celui qui vient vous voir et dit ben, « Moi, ça fait 6 mois que j'ai mal, je continue de jouer au foot, mais je n'arrive plus à jouer des matchs », ben, lui, on va quantifier le stress, on va doser en fonction de sa réponse en essayant de ne pas arrêter complètement. Donc, c'est beaucoup plus fréquent comme clinicien de voir ces gens-là qui viennent nous voir tardivement et pour lesquels on va être un petit peu plus, je vais dire, moins conservateur. On va être un petit peu plus proactif puis continuer de bouger un peu. Après ça, des pathologies de croissance, il y en a plein d'autres. Il y a des pathologies de hanches qui sont dangereuses. Exemple, un jeune ado qui, préadolescence, qui a une douleur à la hanche et qui est un petit peu bien dodu, là, qui est un petit peu en surpoids. Il y a les glissements épiphysaires qui peuvent être problématiques. Donc, une douleur profonde à la hanche avec une boiterie importante chez l'enfant. C'est une consultation médicale rapide pour écarter ce genre de conditions-là. Et il y en a plein d'autres.
Et ton avis sur justement des entorses chez l'enfant, entorse de cheville, entorse de genou, où souvent on entend des parents dire oh, ça va, il va récupérer, on ne soigne pas, pas besoin de rééducation. Quel est ton conseil vis-à-vis de ça? Alors, C'est bon,
il y a les.
il va continuer à courir, ça va aller, il va se soigner tout seul.
Ouais. En bas âge, on préfère quand même ne pas avoir de symptômes associés à l'activité qu'on va faire si on vient d'avoir une blessure traumatique. Mais l'enfant qui se fait une entorse de cheville, il faut s'interroger dans quelle mesure il s'est fait une fracture aux plaques de croissance, au niveau tibia, fibulaire, donc les saltères 1, 2, 3, etc., qui sont comme des gradations en fin de compte. Mais quand on est dans le salter 1, ça mime l'entorse de cheville, on va avoir une douleur parfois palpatoire. Et là, je crains beaucoup plus le corps médical qui surmédicalise ces conditions-là et qui les immobilise beaucoup trop longtemps, plutôt que de simplement respecter les symptômes et de progresser doucement. J'ai un jeune actuellement qui vient de se faire une fracture de tubercule du cinquième, donc s'est fait une entorse de cheville, s'est fracturé la base du cinquième, une fracture de pseudo-Jones, donc qui a une évolution potentiellement un peu plus à risque qu'une fracture normale, mais on l'a immobilisé beaucoup trop longtemps. L'idéal, c'est de vraiment suivre les symptômes. Et si on met une botte, en fin de compte, ben, on met la botte une semaine, peut-être deux, mais après ça, il faut commencer à bouger, il faut commencer à stresser, il faut commencer à s'activer. Et le corps médical aujourd'hui est beaucoup trop conservateur sur les approches qu'ils ont sur autant les fractures que n'importe quelle condition musculo-squelettique. Se fier aux douleurs est un des éléments clés dans le suivi de beaucoup de pathologies. Il y a quelques pathologies particulières où on est plus prudent, mais sinon, ben, on est beaucoup plus proactif que ce que le corps médical fait. Mais le parent, lui, par contre, respecter les douleurs dans une blessure traumatique, ça reste préférable. Tu as mal quand tu cours, tu viens te faire une entorse il y a 4 jours, 5 jours, ben, c'est pas le temps de courir, fais du vélo.
Et juste pour finir le podcast, Blaise, on va faire justement un podcast aussi, si ça vous intéresse, sur le renforcement musculaire pour l'enfant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être pour ouvrir sur ce sujet-là, si je fais du sport, je fais ma petite séance de renfo, pareil, mon enfant, il veut participer avec moi, on est d'accord, on peut le laisser faire, on peut même mettre un petit peu de charge parfois. On est tout le temps en étant bien progressif, ou est-ce qu'il y a une limite par rapport à ça? Je te pose des questions basiques, mais c'est pour que les gens les entendent, parce que ça paraît clair pour nous, mais on se rend compte que quand on parle à des gens sur des repas avec des amis, il y a tellement de clichés, donc c'est toujours bien de le remettre et de le réécouter.
Tu sais, j'ai un kettle chez nous qui est quand même assez lourd. Et
Ah non,
puis,
pas le kettle.
hein?
Non, pas le kettle, je rigole. C'est Pierre, il
Et,
comprendra.
ok. En fait, j'ai ça chez nous
J'ai
qui
une
est dans la
patiente qui s'est
maison. Et là, il y a des
explosé le
enfants
gros
qui viennent
orteil
chez
avec le
nous.
kettle, Blaise, c'est pour ça.
Ah, ok. C'est
Ouais, elle s'est
bon.
fait tomber le kettle sur le gros orteil et en fait, 1 an et demi de galère parce que fracture de la phalange distale et l'ongle, pareil, la matrice explosée.
Explosé.
C'est pour ça la patiente, elle me disait, je lui avais proposé des exos avec une kettle, elle m'a dit, ah non, pas la kettle, pas de kettle. Elle était traumatisée, la pauvre.
Désolé, Blaise, c'était un petit aparté, excuse-moi.
Ouais.
Donc, vois-tu, j'ai un kettle chez nous, je ne sais pas combien il fait, mais il doit faire au moins. Ah, il est lourd. Il faut quand même bien le lever. Et là, il y a des enfants qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans qui sont chez nous, qui s'amusent, et là, ben, ils voient le poids. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ben, ils veulent le lever. Ils veulent voir s'ils arrivent à le lever. Alors, ils ont le dos bien rond vers l'avant, ils prennent le poids avec les deux mains et là, ils essayent de lever en squat. Est-ce qu'il faut leur donner des trucs de posture? Est-ce qu'il faut leur dire de garder le dos bien droit? Est-ce qu'il faut leur dire que c'est dangereux, il ne faut pas qu'ils le fassent? Surtout pas! Tu les laisses faire. En fait, l'enfant va s'autoréguler. Il va tirer dessus autant qu'il peut et puis il se fera même pas mal parce qu'il aura pas, il génère, il ne générera pas assez de force pour lever le kettle à se faire mal dans tous les cas. Donc, laissez-le faire, qu'il s'amuse, qu'il essaye. Pour moi, vraiment, là-dessus, il y a deux choses. Il y a toute la crainte que nous, on a en lien avec nos croyances, nos mythes, notre expérience. Parce que c'est sûr que si moi, je lève une charge très, très lourde de cette manière-là, peut-être que je vais craindre pour mon dos. Mais l'enfant, on le laisse aller. Donc, non, ce n'est pas un problème. Il veut s'amuser, il veut soulever des charges. La seule chose qu'il ne faut pas qu'il fasse, c'est qu'il s'échappe les poids sur lui. C'est tout. C'est ça le truc.
Je pense que c'est vraiment ça, c'est on sous-estime la capacité des enfants. Là, on parle de l'aspect physique, mais même de l'aspect mental, la capacité à apprendre des choses. Je pense qu'on n'exploite pas assez ça et je pense qu'avec le temps, on va développer ça et ça sera intéressant justement.
Et on sous-estime aussi leur capacité à s'auto-réguler, c'est-à-dire décider de soulever quelque chose ou de grimper là où ils peuvent grimper, puis de soulever ce qu'ils sont capables de soulever.
Il y en a certains, il faut les réguler quand même, Blaise. Hein. Moi, je pense à mon petit filleul, là, c'est une bombe. Hein. Il monte partout, il saute partout. C'est quand il s'est déjà ouvert le menton, le truc.
Et le but, c'est d'abord le...
Ouais, c'est sûr. Mais là, pour l'instant, il a des points de suture, mais il apprend pas.
Hein. Il a des dents de lait.
Ouais, c'est ça. Ça sert à ça. D'ailleurs, il a perdu les deux là devant, en plein fer. Mais je sais pas si tu as une dernière question, peut-être, Pierre, pour clôturer ce podcast.
Ouais, un petit rebondissement. Parce qu'en fait, ce qui nous a poussé à faire cet épisode, c'était que on avait vu une donnée passer qui disait que la VO2 max des enfants avait baissé de 20 voire 40% ces 30 dernières années. Et ça semblait être des chiffres qui étaient assez impressionnants. Bah, en tout cas, ça donne des ordres de grandeur de baisse des performances chez les enfants. Et je me souviens de ce que tu avais dit dans le podcast précédent sur les athlètes kényans qui performaient le plus. Ils avaient quand même un point commun, c'est qu'ils souvent ils accumulaient du volume de marche en étant jeunes et que c'était ça qui faisait. En tout cas, c'était un point commun qu'ils avaient, c'était qu'ils marchaient une quinzaine de kilomètres à l'aller et au retour. Je suis plus sûr de cette donnée-là, par contre, et qu'en fait, en volume cumulé sur la semaine, c'était considérable, et en volume cumulé sur la semaine, enfin sur toute leur enfance et leur adolescence. En fait, c'était un avantage considérable. Si on faisait un versus, un enfant qui prend le bus pour aller à l'école en bas de chez lui, lui, il a fait un kilomètre dans sa journée à pied. Mais comment tu veux rattraper ça? Comment tu vas avoir une nation qui performe au marathon versus des enfants qui font 75 bornes par semaine?
Et performer sur le marathon, c'est très secondaire, mais on parle plus ici de développer santé. Une population en santé. Et pour préciser un peu ton truc, parce qu'on va au Kenya fréquemment, on menait une étude au Kenya, en fin de compte, où on avait un questionnaire sur des coureurs et coureuses. Alors, les coureurs devaient faire en dessous de 1h01 sur demi-marathon, sur SMI. Donc, on s'entend que c'était des bons coureurs. Les coureuses faisaient en dessous de 34 minutes sur le 10 km. Donc, ça restait aussi des très bonnes coureuses. Et il y a une chose, on leur posait des questionnaires et il y a quelque chose qui revenait, mais constamment. C'est-à-dire que c'est presque 100% des personnes qu'on a interrogées qui avaient ces particularités-là. Ils couraient, ils se déplaçaient à pied pour aller à l'école, donc à la course ou à la marche. Et il y en a qui faisaient 4 km pour aller, mais quand tu faisais 4 km pour aller, tu revenais manger sur l'heure du dîner la majorité du temps. Et il y en a que c'était jusqu'à 12 km. Alors, à 12 km, ils mangeaient à l'école. Ils allaient quand même à l'école à 12 km, puis ils revenaient le soir. Alors, quand tu fais 24 km par jour, en bas âge, et là, on parle de 7-8 ans, hein, et adolescence par la suite, clairement, tu te développes des capacités, une tolérance qui est énorme. Et il faut savoir que quand les enfants vont à l'école comme ça, ben avant d'aller à l'école, ils étaient déjà ultra actifs en courant partout toute la journée pour s'amuser, se déplacer, pour faire différentes choses. Et l'autre caractéristique, c'est que tous ces enfants-là étaient en plus pieds nus. Donc là, on a des enfants qui ont cumulé des volumes impressionnants, avec une augmentation de leur tolérance mécanique au stress qui était impressionnant en étant pieds nus en se déplaçant de cette manière-là sur les chemins caillouteux rouges du Kenya. Bien évidemment, tu arrives à l'âge adulte, ben, tu es immunisé contre à peu près tout ce qui existe comme pathologie musculosquelettique et en plus, ben, tu as un VO2 qui est un facteur de risque par rapport au décès qui est le plus important. Donc, d'avoir un bon VO2, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour ne pas mourir trop jeune. Meilleure chose. Donc, clairement, on a des gens qui sont en super santé en lien avec ces facteurs-là. Et bien évidemment, ce que je disais aussi dans un autre podcast, je pense, avec vous, qu'on avait discuté, c'est que la nouvelle génération des athlètes qui ont performé, qui ont gagné des sous, leurs enfants ne vont plus à l'école à pied. Et ils ne sont plus pieds nus. Ils ont des belles grosses chaussures et ils vont à l'école en motorisé pour ne pas trop se déplacer. Et moi, ma prédiction, c'est que les futurs champions kényans et éthiopiens ne seront pas les enfants des anciens. Ça va être une nouvelle génération parce que c'est des gens qui auront développé ces compétences en bas âge. Mais nos jeunes en Amérique du Nord et en Europe ne bougent pas assez. L'école, nous ici, est à quelques centaines de mètres et si on voulait, ben, nos enfants auraient pu y aller en bus plutôt que de marcher.
C'est terrible. Donc, j'espère que vous allez mettre vos enfants au sport. Je pense aussi que dans ce podcast, vous en avez bien conscience. Donc je sais très bien que vous essayez de faire votre maximum. Et si vous êtes là aussi, j'espère qu'on aura répondu à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser d'ailleurs en fin de commentaire. Donc juste en bas, il y aura les liens de Blaise aussi si vous voulez les retrouver sur les réseaux. Ben merci Blaise, en tout cas un grand plaisir. Et on avait hésité à se faire un petit sujet sur les plus de 45 ans ou 50 ans. Est-ce qu'on peut courir, même en étant, je vais dire vieux, je vais être méchant, désolé, je sais pas pour les personnes qui ont plus de. Ouais, dangereux, ouais, je sais. Et si
Ah
c'est un
là, fais
sujet.
attention, fais
Si,
attention.
je fais attention, je fais attention. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et on invitera Blaise peut-être dans un nouveau podcast pour venir sur ce sujet-là qui apparemment est brûlant, il faut faire attention. Mais merci beaucoup, Blaise. En tout cas, est-ce que tu as un dernier mot peut-être de la fin pour conclure?
Quoi dire d'autre que notre élément central au niveau santé publique aujourd'hui, c'est l'activité physique. Il faut vraiment, on n'est plus à l'heure de démontrer que l'activité physique est bonne, autant pour les enfants, les adultes que les personnes âgées. Mais clairement, on est à comment on arrive à convaincre la population de bouger davantage. Et si jamais on arrivait à augmenter le niveau d'activité physique de la population de façon générale, le fait de sauver des coûts sociaux, le fait d'avoir une population plus en santé, d'avoir des hôpitaux qui ne sont pas surchargés, ça serait phénoménal. Donc, on est vraiment, on se doit individuellement de faire la promotion de l'activité, de s'assurer que les gens comprennent l'importance de ça. Et ça commence par les médecins qui doivent faire des prescriptions d'activité physique plutôt que d'hypocholestérolémiant de pilules de toutes sortes. Donc, on est vraiment là-dedans. Je pense que votre podcast va avoir une portée significative et il faut qu'on partage ces informations-là. Les gars, si vous faites un beau petit reel sur l'effet important de l'activité physique, moi, je vais partager sur tous mes trucs parce qu'il faut que tout le monde le sache.
Eh bien, super, ben merci. C'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, pour essayer d'aider les gens justement à avoir les clés et comprendre l'importance justement de l'activité physique. Et je pense qu'on est unanime sur le sujet. Un grand merci Blaise et Pierrot. C'est bon, on peut finir sur ça?
Merci beaucoup,
Merci
Blaise.
beaucoup. Ciao,
Toujours une
Salut tout le monde.
masterclass, hein.
Un grand merci d'avoir écouté ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre vos 5 étoiles et vous retrouverez donc le lien du livre en description. Un grand merci de soutenir notre podcast et ce projet et à très vite pour un nouvel épisode.